Il faut pas essayer de rassurer, ça sert à rien. C'est juste que cette personne a besoin d'évacuer, il y a une souffrance, il faut qu'elle évacue. Et je pense qu'elle est contente de pouvoir le faire dans un cadre où bah, c'est sécure pour elle, où c'est confortable, etc.
Ouais.
Déjà, rien que ça, bah, c'est cool. Au début, je n'étais pas à l'aise. Ouais, vous êtes sûr que ça va, vous voulez me dire ce qui se passe, bah, plus trop aujourd'hui, voilà, c'est allez-y, pleurez, pas de problème, allez-y.
Bonjour et bienvenue dans Soignant Soigné, le podcast dédié à la santé, l'ostéopathie et au bien-être. Je suis Baptiste Blanchard, ostéopathe passionné, et chaque épisode est une plongée dans les mystères du soin, la guérison, du bien-être et du développement personnel. Rencontrez avec moi des thérapeutes visionnaires, des sportifs, des patients aux histoires extraordinaires, tous unis par le désir de comprendre ce qui nous rend en bonne santé. Préparez-vous donc à explorer des approches innovantes et à élargir vos horizons sur la santé intégrative avec Soignant Soigné. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine Couly, alias Cerveau Musclé, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, un kinésithérapeute qui se distingue par sa passion pour défaire les idées reçues en santé, armé de faits scientifiques et de son vécu clinique. Cet épisode révèle des facettes moins connues d'Antoine. Il partage avec nous son immersion dans le monde de la psychologie et son application du modèle biopsychosocial, soulignant l'essence d'une prise en charge respectueuse et informée du patient. Ensemble, nous abordons donc la nécessité de clarifier des concepts souvent galvaudés, offrant une nouvelle perspective sur la posture du soignant. Préparez-vous donc à une session riche en enseignements qui ouvre de nouvelles voies de compréhension entre soignants et soignés grâce à l'expertise et à l'approche pragmatique d'Antoine. A tout de suite avec Cerveau Musclé. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis hyper heureux de pouvoir recevoir Antoine Couly, alias Cerveau Musclé, que vous connaissez sûrement sur Instagram, qui a un compte qui débunk pas mal sur des idées reçues autour de la santé, qui est kinésithérapeute. Et on va pouvoir échanger aujourd'hui sur plein de sujets. Je pense qu'on va prendre le temps de parler de santé, de parler de kinésithérapie, de parler EBP, de parler aussi d'ouverture, de parler peut-être de douleur, de parler aussi de biopsychosocial. Voilà, salut Antoine, merci de me recevoir chez toi, ici à Levallois.
C'est ça, merci à toi Baptiste d'être venu, hein, c'est sympa.
Yes, trop cool. Je commence toujours mon podcast par un petit jeu de présentation. Je te propose deux propositions. Toi, tu me réponds avec ton intuition, ce qui te vient naturellement. Tu peux mettre une petite explication dessus.
D'accord.
Si je te dis chien ou chat.
Chien. Beagle. Beagle.
Ouais.
Bon, il n'y a pas la vidéo, mais je te sortirai quelques t-shirts sinon.
Ok. Plage ou montagne.
Corse.
Corse. T'as des origines corse ou quoi?
Non.
Ok. Thé ou café?
Café.
Si je te dis plutôt matin ou plutôt soir?
Sieste.
Sieste. Sieste du midi ou...
Sieste du midi et sieste de l'après-midi. Hein.
Ouais. T'es partisan des micro-siestes?
Des bonnes siestes.
Ouais. T'es plutôt ville ou campagne, malgré le fait que tu sois à Paris? Ça peut être les deux. Hein.
Un peu des deux.
Ouais. Tu trouves ton équilibre avec un peu des deux en allant un peu en Corse et en vivant à Levallois?
Exactement.
Top. Est-ce que tu vas être plutôt aventure ou plutôt confort?
Confort.
Ok. Plutôt salé ou sucré?
Sucré.
Est-ce que tu vas être plutôt film d'action ou film de comédie?
Drame, comédie, drame.
Ok. Plutôt, une bonne question, lecture ou écriture?
Écriture.
Ok. Et enfin, voiture ou vélo?
À voiture.
Ok. Il y en a une petite dernière quand même, bière ou cocktail?
Cocktail.
Top. Merci pour cette première petite présentation. Deuxième question pour en apprendre un peu plus sur toi, pour ceux qui ne te connaissent pas ou pour réactualiser aussi les faits. Si je te demande aujourd'hui, qui es-tu, Antoine Couly?
Eh ben, je suis Antoine Couly.
Ouais.
Merci Baptiste, bonne soirée.
Ça fait un plaisir.
Écoute, comme toi, je suis diplômé de 2017 de kiné, du coup. Je suis diplômé d'une école parisienne et j'exerce en cabinet libéral à Levallois donc depuis 2017, du coup. En parallèle, j'ai aussi eu un master 2 en psychologie. Et donc, j'anime, comme tu l'as dit, un compte Instagram de remise en question et de vulgarisation scientifique, si je puis dire, très modestement. Et à côté de ça, j'ai écrit un bouquin aussi avec une amie ostéopathe, Olivia Ferrand. Et je donne des cours en école de kiné sur les facteurs psychologiques en lien avec la douleur. Voilà.
C'est top. C'est des sujets qui me passionnent aussi, notamment la psychologie, notamment les mécanismes de la douleur qui font remettre en question pas mal de préjugés, pas mal d'idées reçues.
Ça, c'est sûr.
Ouais. Est-ce que tu peux nous parler davantage de ton parcours? Comment tu t'es dit « je vais faire kiné », c'est venu progressivement, c'était un truc depuis longtemps?
Le hasard.
Le hasard?
Le hasard, écoute, je voulais me diriger en tout cas vers une filière du soin.
Ouais.
Donc, comme beaucoup, j'ai fait la fameuse PACES. J'ai pas eu médecine à quoi, 20 places.
Ok.
J'avais coché kiné au cas où sans savoir même ce que c'était un kiné. Voilà, donc j'ai eu kiné.
T'es jamais allé chez un kiné avant ça, tout ça, tu savais pas trop?
Je savais pas du tout ce que c'était, mais pas du tout. Pour moi, c'était un mec qui faisait des massages et puis basta, quoi. Voilà. Et j'ai eu la chance de faire un stage donc, chez mon actuel titulaire donc, à Levallois. Et quand je l'ai vu faire, je me suis dit, ouais, c'est génial en fait. La proximité avec les gens, etc. Et moi, ouais, si tu veux, je me dirigeais vers le soin justement pour pouvoir vraiment aider les gens et avoir une proximité avec eux. Et je me disais au début, pourquoi pas faire psychiatre?
Ok.
Je faisais médecine dans l'idée de devenir psychiatre.
T'avais déjà ce côté psychologie en tête?
Ouais, c'est un sujet qui me passionne depuis le lycée, je pense. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais voilà, ça me passionne. Et ouais, je voulais faire psychiatre. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, j'aurais pas fait ça. Plutôt psychologue kiné lycéen, à la limite. Mais je trouve que kiné, c'est un peu l'équilibre entre... c'est le mec polyvalent, quoi.
Ouais.
Donc, il faut qu'il sache un peu tout faire, qu'il soit un peu au courant de tout. Et bien sûr, dès que tu prends en charge des gens, je pense d'avoir un peu de psychologie, un peu d'humanité, c'est pas du luxe.
Ouais, c'est hyper important. Et aujourd'hui, on s'en rend compte, parfois l'humanité et tout ce côté psychologie, je pense, c'est un peu mis de côté dans certains, quand tu m'en parlais tout à l'heure, mais on voit beaucoup de patients parfois qui ont des errances médicales, qui ont des histoires assez incroyables sur la difficulté d'avoir été compris ou juste écouté. Évidemment, le système de santé n'est pas évident à gérer du tout, je pense. J'aimerais pas être en haut de tout ça pour déléguer.
Bien sûr, ce sera facile de tirer sur les uns et sur les autres. Bon, il y en a qui ne font pas d'efforts, ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a peu de temps imparti, beaucoup de gens à voir. Alors pour un médecin, c'est encore pire.
Ouais, je pense vraiment au médecin, ça ne doit pas être facile.
C'est vrai que parfois, il y a des histoires de patients quand même qui ont subi des violences psychologiques de la part de médecins, de kinés, d'ostéos, de tout corps de soignants.
Complètement.
Et là, ça me pose un problème déjà.
Ouais.
Parce qu'à défaut d'être bien présent, on peut au moins ne pas être violent avec quelqu'un, quoi. Je pense.
Ouais. Être bienveillant, quoi.
Au moins.
Au moins,
voilà,
c'est au la moindre des choses.
De ne pas juger les gens, de dire qu'ils simulent, de dire que... Enfin bref, voilà, c'est... Bon.
Je suis à fond d'accord avec ça. Est-ce que tu penses, par exemple, que la psychologie, comme elle est enseignée, du moins déjà en école de kiné, parce que c'est ça que tu connais, elle est enseignée de la bonne façon pour toi? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que ça devrait avoir une différente approche?
Est-ce que c'est bonne ou mauvaise façon? Je vais te dire que pour juger, je suis personne. Donc
bien sûr.
Voilà. Par contre, là où tu m'as dit aussi, est-ce que c'est assez enseigné? Là, clairement, je pense que non. Je pense que de mémoire, je dois avoir peut-être une... allez, en échelle large, peut-être 20 heures en 3 ans.
Sur tout le cursus.
Et ouais. Et ça, franchement, c'est problématique. Maintenant, je pense que ce qu'on a appris, c'était bien, tu vois. Mais en 20 heures, tu peux pas, voilà. tu peux pas balayer beaucoup, quoi.
Ouais.
Et malheureusement, en tout cas, je parle de mon IFMK, hein. Et encore une fois, c'est pas faire un procès à mon IFMK, pas du tout, hein. On fait comme on peut. Mais c'est vrai que si on pouvait en mettre plus, ce serait super. Après, je sais pas comment c'est dans les autres IFMK, mais j'ai cette impression que il y a de plus en plus d'intérêt, en tout cas, par rapport à ça. Et c'est je pense, une très bonne chose.
Ouais, ouais, complètement. Avec l'émergence de tout le côté biopsychosocial, de l'approche centrée autour du patient, je pense qu'on évolue pas mal.
Alors en fait, l'approche biopsychosociale, tu vois, ça a été très popularisé par Engel en 81.
Ok, tu vas m'apprendre des choses, c'est cool.
Et ça fait déjà un petit moment du coup.
Ouais.
Hein. Et Engel, c'est très simple, il disait aujourd'hui on est très biomédical. Mais j'ai l'impression que du coup, on n'écoute pas vraiment les gens, etc., etc. Donc, ce serait bien peut-être de pousser un peu là-dessus. Et tu me parles du psycho, je vais en réenquérir sur le social. Alors, on dit tous, oui, la douleur, machin, blabla, c'est bio-psycho-social. Je sais que c'est ton podcast.
Il n'y a aucun souci.
Je vais te poser une question.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais me définir simplement qu'est-ce que pour toi le modèle bio-psycho-social?
Eh ben, j'allais justement y venir pour te dire que moi, j'avais pas grande connaissance à travers tout ça, parce que je me suis jamais vraiment penché sur la question. Mais en fait, à travers moi, mon chemin d'ostéopathe, de thérapeute, il y a eu une vraie différence quand j'ai fait certaines formations qui m'ont fait toucher l'émotionnel. Quand on se traite du coup entre stagiaires, ça fait pas mal se remettre en question. Et j'avais pas mal d'ego à une époque avant de faire tous ces stages-là.
Ce qui est humain.
Ouais, complètement.
On l'a tous eu.
Mais je l'ai toujours. Mais par contre, j'étais pas conscient de certaines parts de cet ego. Et en me remettant en question, en travaillant sur moi, avec X, Y façon, et ben en fait, à un moment, tu te rends compte que certaines personnes qu'avant tu pouvais juger, tu les jugeais peut-être parce que ça touchait des choses en toi. Et quand tu te remets un peu en question, après, tu as un accueil différent en fait, des patients.
Le transfert.
Exactement. Avec moins de préjugés.
Bien sûr.
Et donc, pour te répondre, si je devais définir pour moi le biopsychosocial, je mettrais déjà un grand mot, c'est la globalité.
D'accord.
Et de voir le patient, pas uniquement à travers ce qu'il va nous montrer ou nous dire, mais vraiment peut-être voir la face cachée de l'iceberg, ou du moins se rendre compte qu'il y a une face cachée de l'iceberg. Et ça, c'est à travers, évidemment, son histoire, c'est-à-dire est-ce qu'il a vécu de son enfance à aujourd'hui. Pour bosser pas mal en somato-émotionnel, en accompagnement avec des patients, on n'imagine même pas le nombre de patients qu'on voit qui ont eu des histoires vraiment très très compliquées à
bien
vivre.
Sûr.
Et quand on s'en rend compte, on se dit « Ah ouais, mais qui je suis déjà pour juger cette personne ?» T'as pas le droit en fait de juger, t'as juste à l'accueillir, à lui demander « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» à l'écouter, et déjà il y a une partie du soin qui est...
Ah bah une belle partie.
Qui est pas mal mis en application, quoi.
Bah écoute, je rejoindrai ta définition, alors loin de moi d'avoir la prétention d'avoir la définition du biopsychosocial.
Est-ce qu'il y en a vraiment une ?
Je traduirais ça par c'est prendre en charge un individu et pas une pathologie, tout simplement.
Ouais.
Le biomédical prend en charge des pathologies, le biopsychosocial prend en charge un individu. Voilà. C'est aussi, pour moi, aussi simple que ça, si on résume, quoi. Mais c'est extrêmement complexe, je trouve. Mais voilà, de se dire c'est Madame Michu, quoi. C'est pas une entorse de cheville, c'est Madame Michu. Alors, peut-être que Madame Michu, elle a pas un gros background qui soit en lien avec son handicap ou quoi que ce soit. Et tant mieux, ça rend les choses plus simples et plus légères pour notre charge mentale, si je puis dire. Mais maintenant, parfois, on va prendre un sportif en charge qui s'est fait une blessure et que pour lui, c'est un drame, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment prendre en charge la personne qu'on a en face de nous et non pas une cheville ou une entorse ou enfin bref.
Ouais, à fond. S'éloigner un peu de cette spécificité parfois, même si évidemment, surtout en tant que kiné, je vais dire on parce que je suis encore kiné, des fois je travaille encore en tant que kinésithérapeute, mais parfois on a une ordonnance qui arrive, on se doit de traiter une spécificité, parce que quand quelqu'un vient pour une entorse de cheville, c'est évident qu'il faut traiter son entorse de cheville, mais peut-être que parfois de dézoomer un petit peu, de voir dans quel contexte elle ou il s'est fait cette entorse, est-ce qu'il y avait, justement pour revenir sur le biopsychosocial, c'était un moment de gros stress dans sa vie, parce que peut-être qu'à un autre moment, en fait, elle ne se serait pas fait cette entorse, on n'en sait rien.
Bien sûr.
Mais voilà, juste d'avoir une écoute et des fois de simplement prendre conscience de cet ensemble, je pense, fait accueillir le patient d'une façon différente.
Mais le plus dur, je pense que c'est de faire prendre conscience au patient qu'on va avoir cette approche, qu'on est là pour lui et pas pour sa pathologie. Et c'est vrai que ça peut perturber et choquer les patients, puisqu'ils se disent « Non, mais moi, j'ai un peu mon entorse. » Moi, je leur dis « Non, non, c'est vous qui venez, c'est pas l'entorse qui vient. »
Ouais.
Attention.
C'est une très bonne réplique.
Et ils disent, ah ouais, oui, bah oui, oui, enfin bien sûr. Enfin oui, évidemment.
Ouais, en ostéopathie, on parle beaucoup de fulcrum, juste pour dire point d'appui, en fait.
D'accord.
Et
tous les fulcrum tests, hein.
Ouais. Et des fois, un point d'appui, ça peut juste être un mot, en fait, on s'en rend pas assez compte, mais la puissance des mots dans une relation thérapeutique est énorme. Et ça peut faire reconsidérer le patient à un moment où lui, justement, vient pour son entorse. Le kiné lui répond, peut-être que avant de venir pour ton entorse, tu viens pour toi. Et ça peut déjà être, en fait.
Bien sûr.
Pour lui, quelque chose qui va changer pas mal de choses.
Complètement.
Top. Ensuite, donc après ton parcours kiné, tu fais psycho.
Alors j'ai fait mon M1 de psycho en même temps que la dernière année de kiné.
D'accord.
Il y avait un partenariat entre l'école et l'université Paris-Sud.
Ok.
Et après, j'ai commencé à bosser en libéral. Et en gros, je bossais les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi après-midi. Et le jeudi matin, vendredi matin, j'allais en cours.
Ah, c'était sport.
Voilà. Et puis le samedi aussi, je bossais. Enfin bref, ouais, c'était sport. C'était une année...
Ouais, je me doute. T'as dû tirer un peu sur les ficelles.
Ouais, carrément.
Qu'est-ce que... C'était 2 années de psycho ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que tu as derrière, tu en as ressorti ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Si peut-être un kiné, tu vois, sort de l'école aujourd'hui et nous écoute et, tu vois, prend un peu ses notions et est un peu curieux à propos de ce domaine-là.
Je dirais qu'en fait, alors j'ai un conflit d'intérêt à signaler puisque j'ai une formation en psycho qui va sortir.
Ok.
Voilà, en e-learning. Donc forcément, j'ai un parti pris. Mais je dirais que on a des systèmes de triage aujourd'hui, tu sais, en kiné, le Start Back Tool, McKenzie, etc.
Ouais.
Moi, dans la formation, j'ai envie de proposer un système de triage, mais par rapport aux facteurs psy qu'on a identifiés. Par exemple, un patient qui a des stratégies de peur-évitement, c'est déjà les repérer, pourquoi il met ça en place, et ensuite, quel type de traitement on peut mettre en place spécifiquement par rapport à ça. Idem avec du catastrophisme, idem avec de la dépression, de l'anxiété, etc. etc. et aussi, quand et comment rediriger vers un psychologue, psychiatre. Mmh. Okay donc, je dirais que... il n'y a rien d'extraordinaire où c'est pas forcément un game changer. C'est une autre façon d'aborder un patient. Ok ? Si le patient n'a pas de facteur psychologique particulier, bon, on sait tout se faire. Mais si en effet tu perçois ou tu évalues, tu repères des stratégies de peur-évitement et que, ah tiens, ok, bah pourquoi ? Ah, mais parce qu'en plus, dans son passé, il s'est déjà fait une blessure comme ça, ou il connaît un tel qui s'est déjà fait ça, ok. Donc du coup, qu'est-ce que vous pensez ? Enfin bref, tu vois. Bon, je ne peux pas tout dire parce que...
Bien sûr, on va pas non, spoiler cette formation.
Voilà. mais non, dans l'idée, c'est par exemple, tu vois, même dans le peur-évitement. Oui, peur-évitement, voilà, c'est le mec, il a mal au dos quand il se penche en avant. Du coup, il évite de se pencher en avant. Oui, mais pourquoi ? Il a mal parce qu'il a vraiment mal quand il le fait. Mais est-ce qu'on lui a dit que c'était mauvais ? Est-ce qu'il a appris par lui-même que c'était mauvais ? Est-ce qu'il l'a fait à répétition et il s'est rendu compte à chaque fois que ça faisait mal, donc il évite de le faire ? Quel type de peur-évitement il a ?
À fond.
Et du coup, selon ce triage-là, ça va te permettre de t'orienter sur tel type ou tel type de traitement. Il n'y a pas de preuve. Ça, c'est ma petite construction perso. Mais je trouve ça intéressant. Et encore une fois, ce n'est pas game changer, mais c'est voilà, un outil en plus. Quoi.
Ouais, personnellement, tu n'as pas à me convaincre s'il y a des preuves ou pas, mais moi, ça me parle en tout cas, ce que
mais
tu
voilà.
dis.
Il y a des preuves sur le plan évitement et tout ça, mais c'est vrai que le système de tri et tout, bon, mais voilà, ça peut vraiment changer des choses avec des patients.
À un moment, quand tu veux construire quelque chose d'un peu différent,
bien sûr.
Tu peux pas partir sur quelque chose de prouvé puisque c'est pas forcément établi.
Ce sera peut-être prouvé.
J'espère.
Bon, j'en suis sûr.
Mais, mais en tout cas, je trouve ce sujet passionnant. Et est-ce que tu sais si aujourd'hui, il y a des formations comme ça qui sont proposées autour de la kiné sur...
Alors, en psycho, oui. Il y a les TCC avec Rémi Ollier et Alzheimeroff.
Ok.
Alors,
thérapie cognitive et comportementale,
exactement,
pour ceux qui se demandent.
Il m'avait invité pour la faire, j'avais pas pu, mais il paraît qu'elle est géniale. J'ai très envie de la faire, perso.
Ouais.
J'ai pas de conflit d'intérêt avec Rémi, si ce n'est que c'est un super gars.
Il n'y a aucune raison d'en avoir, de toute façon.
Et je crois qu'à l'agence BP, il y a une formation psycho. Oh, quelle tâche. C'est avec quelqu'un de très connu, en plus. Avec, Tara... Bref, quelqu'un de très connu.
Pas de souci.
Qui est très, très forte en psycho. Je pense que... Alors, je ne l'ai pas faite non plus, mais je pense que ça vaut le coup.
Carrément.
Ouais, puis il y a la mienne.
Ouais. Non, mais de toute façon, voilà, plus ça émerge et plus il y en a,
ouais,
plus les gens
sûr.
vont prendre conscience
bien
aussi
sûr.
Autour de ça. Donc
Tamar Pinkus.
Tamar Pinkus, ok.
Tamar Pinkus qui d'ailleurs a quelques vidéos sur YouTube que je recommande très chaudement.
Trop bien. Je me renseignerai un peu sur tout ça.
Super, femme extraordinaire.
Trop cool.
Ouais.
Ok. Tu as fini ensuite ton master en psycho. Après,
oui.
tu exerces du coup.
Après, j'exerce, ouais, tout à fait. Voilà, j'exerce à plein temps, voilà.
Trop bien. Quand est-ce qu'est né, du coup, ton compte Insta ? Quand est-ce que tu t'es dit que tu avais envie de proposer ça ?
Écoute, je crois que c'était fin 2018. J'avais fait un compte Insta pour mes patients, pour mettre des petites vidéos d'exercice.
OK.
Leur disant, voilà, je vous propose de la ressource supplémentaire. Il y a des petites vidéos déjà tournées, si jamais, voilà. Et puis, en fait, il y avait déjà d'autres kinés présents à l'époque. Il y avait de mémoire la chaîne Santé, Monsieur Clavicule, les Majeurs Mouvement et peut-être même Princesse Périnée,
okay,
je crois.
Ouais.
De mémoire, je me souviens d'eux surtout. Et forcément, grande gueule que je suis, un peu prétentieux, un peu pédant, je venais de me la ramener en disant, voilà, ça c'est peut-être plus très à jour, les études disent que ceci, cela, machin. Et c'est donc Majeurs Mouvement qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, écoute, au lieu de nous casser les pieds en commentaire, pourquoi t'en ferais pas un compte ? On n'a pas encore de kiné scientifique sur Instagram en France. Je dis, bah écoute, si tu veux. Ok, donc il m'a donné on va dire, la boîte à outils, le B.A.B.A. du petit influenceur en herbe.
Ouais.
Et c'est ainsi qu'est né Cerveau Musclé, du coup. Voilà,
okay.
Pour commencer les premières vidéos vraiment de debunk à partir de début 2019.
Ouais.
Et voilà.
Après, du coup, comme ça a bien pris, est né, je suppose, l'idée du livre.
L'idée du livre, ouais, pour toucher une population qui n'était pas sur les réseaux.
Carrément.
Et puis pour pouvoir... développer plus, parce que Instagram n'est pas un format qui permet vraiment de développer.
Ouais.
C'est les réseaux sociaux, on le sait, hein, c'est les jeux du cirque et ça clash, machin, etc. Alors que j'étais carrément là-dedans au début. Hein.
Tu prends un peu de recul aujourd'hui avec la maturité.
Ouais, carrément. En fait, voilà, je me calme et je me retrouve plus dans qui je suis. Voilà, plutôt que de faire l'excité.
Ouais.
Même si, j'ai pas de regrets. Bah, mais,
au début, ça t'a servi, je pense, parce que ça fait parler, puis ça donne de la visibilité.
Voilà,
ça fait,
voilà, même si aujourd'hui, en fait, je recherche plus ça du tout. Tu vois, au début, c'est clair, en fait, tu commences à avoir 5 000, 10 000 abonnés, tu te dis, ouais, mais c'est un truc de fou.
Il y a le petit côté go trip qui rentre en jeu, t'es content.
Mais complètement, t'as la dopamine qui est à fond la caisse, t'as plein de likes, les gens parlent de toi, tu connais personne, tu croises des. Tu vois, cette année, j'étais au ski, un mec dans le télécabine qui me dit, ah, t'es cerveau musclé. Au début, tu vois, ça te fait kiffer, t'as un peu de gloire. C'est... Oui. Puis bon, en fait, je me dis, je m'en fous. Quoi.
Ouais.
Enfin, aujourd'hui, je suis loin de tout ça, je fais mes petits trucs et beaucoup plus dans le calme. Et je crois que c'est bien mieux ainsi.
Ça fait
déjà
du bien.
Pour ma santé mentale.
Ouais.
Et pour les autres aussi, je pense que c'est bien de ne pas avoir ce petit con là qui s'excite dans tous les sens.
Ouais, du coup, petit point sur justement les réseaux, avec du coup, justement, cette maturité, cette expérience tout de même que t'as à travers les réseaux.
Ouais.
Je pense qu'il y a plein de côtés extrêmement positifs, notamment
bien
le
sûr.
Contact. Aujourd'hui, je serais pas ici s'il y avait pas les réseaux.
Bien sûr.
Grâce à ça, je peux interviewer pas mal de gens qui m'intéressent. Donc, il y a vraiment un côté relationnel. Ça me met vraiment en relation beaucoup
bien
de
sûr.
Gens. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a aussi un côté, je pense, dangereux. Dans le côté addiction aujourd'hui, dans le côté aussi, bah, comme on disait tout à l'heure, ego trip, on peut vite nourrir tellement son ego à travers les réseaux qu'on en perd un peu la réalité des choses et on décolle un peu. Qu'est-ce que toi, t'as appris de tout ça ?
Écoute, j'ai appris que Instagram a été créé de toute façon pour générer de l'addiction. C'est comme la cigarette. Hein. Le but, c'est pas que tu prennes du... Enfin, c'est que tu prennes du plaisir, mais surtout que tu sois accro. Et je m'en suis... Au début... T'es toujours dans le... Tu nies, tu vois, tu te dis non, mais Instagram, je m'en fous, machin. Alors que c'est comme si t'avais un câble USB dans la nuque, façon cyberpunk, pour avoir ta dose, quoi.
Ouais, à fond. Voilà.
Et j'ai été
c'est
dedans, j'ai carrément
image.
Été dedans, tu vois, mais à fond. Et je me suis rendu compte, et je me suis dit, en fait, alors attends, faut que je fasse plus de likes. Avant de me rendre compte qu'en fait, non, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est de t'en foutre.
Ouais.
Ou du moins, de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Ce qui est beaucoup plus le cas aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux, du coup.
Ça doit faire du bien.
Je suis plus en train de me stresser à faire des posts, à me dire « Oh, j'ai fait moins de likes ». C'est peu importe.
Ouais.
Je fais mes petites recherches, j'aime bien, c'est cool, c'est sympa de mettre ça en forme, machin. Si ça peut servir, c'est chouette. Voilà, super, tu vois. Avec le recul, je dirais que, et j'aimerais mettre en garde mes collègues kinés, ostéos, etc., que je pense qu'il faut accepter que oui, on est accro à ce truc-là. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, c'est fait pour.
Ouais.
Comme il n'y a pas de honte à être fumeur, tu vois.
Ouais, bon. Complètement.
Mais de faire attention parce qu'en fait, ça nous fait plus de mal qu'autre chose et on s'en rend compte plus tard. Donc, il y a cet ego trip, forcément. Mais au final, comme tu l'as dit, ça m'a permis de faire plein de super rencontres. Donc maintenant, j'ai même plein de très bons copains que j'ai rencontrés grâce à Instagram. Donc, un petit coucou à Chaîne Santé, Clinique Guide, Olivia, bref.
Ouais.
Clavicule, voilà.
À fond.
Et faire un peu de réseautage aussi, donc c'est intéressant. Et puis, tu apprends des choses. Et puis, voilà, c'est chouette. Mais oui, bah, comme tout, il y a toujours un revers de la médaille. Voilà, faut en être conscient, l'accepter, en fait.
À fond.
Ouais.
J'avais beaucoup aimé la vidéo de Monsieur Clavicule et de la Chaîne Santé quand ils ont viré le téléphone pendant.
Ça, c'était une histoire. Ils étaient pas bien au début. Hein.
Ben ouais, mais c'est là où tu te dis à quel point ça devient une vraie addiction. Quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et le plus simple, c'est de l'accepter plutôt que de la combattre.
Ouais,
c'est de l'accepter et de dire ok, oui, bah, je suis accro. D'accord.
Ouais. Et de garder un petit garde-fou à côté,
ouais.
de pas se perdre.
Et de faire des pauses, si jamais, voilà, ça peut faire du bien aussi.
Ouais, comme ce petit voyage en Amérique.
Ah, ça fait
bien.
Beaucoup de bien.
Top. Aujourd'hui, donc je pense que tu mets un peu moins d'énergie peut-être dans les réseaux, même si t'es quand même toujours bien présent. Mais comment s'organise, par exemple, une semaine type, une journée type, en tant que kiné quand même qui bosse pas mal.
Ouais.
Influenceur, voilà, il faut créer du contenu, il faut aussi lire des études dans la création de contenu que tu fais.
Bien sûr.
Comment tu gères un peu tout ça ?
Bah écoute, je vais prendre un temps en général. Allez, je vais m'accorder à peu près 3 jours par semaine aujourd'hui. Avant, c'était quasiment tous les jours. Non, c'est 3 jours par semaine, justement, pour élaborer. Là, je suis passé plutôt sur un poste par semaine. Avant, j'étais à 2. Mais au final, c'est trop de pression et voilà, je préfère juste prendre du plaisir. Donc un poste par semaine, ça suffira très bien. Le compte va beaucoup moins grossir, il grossit beaucoup moins et c'est pas grave.
Ouais.
C'est magnifique d'en être arrivé là avec de la vulgache, bah, c'est super.
Carrément.
Ça m'a fait vivre des choses vraiment super, donc c'est super. Super, super, super. Donc, voilà, 3 jours par semaine, je dirais que ça me représente à peu près 4 heures de travail pour faire un poste. Donc, il faut lire les articles, bien sûr. Il faut avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on lit. Est-ce que la qualité de ma lecture est parfaite? Très loin de là. Est-ce qu'elle est bonne pour les réseaux? Très loin de là aussi. Je ne propose pas de la grande qualité, évidemment, mais d'essayer de proposer soit de remettre en question des choses, en essayant de ne pas faire trop de cherry picking, donc pas faire trop de parti pris, en essayant d'évaluer le pour, le contre, soit des cas cliniques, donc ça c'est assez rapide à écrire, c'est pratique.
Ouais. C'est hyper intéressant aussi.
Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais. Ou alors sinon des thématiques, si tu veux, de recherche fondamentale, par exemple sur la neurophysiologie de la douleur, des choses comme ça, où là, il y aura toujours du débat, mais ça permet quand même de livrer des nouvelles connaissances intéressantes a priori. Donc, bien sûr, je ne fais pas des évaluations poussées des articles que j'inclus. Ce n'est pas possible. Humainement, je n'ai pas le temps.
Bien sûr.
En faisant 11 heures de taf par jour au Cap, ce n'est pas possible. Puis en essayant d'avoir une vie à côté quand même. mais voilà, en gros, 4 heures par semaine pour la lecture et puis la réalisation du poste en graphique. Quoi.
Ouais. Et à côté de ça, du coup, tu bosses dans un cabinet de kiné.
Ouais.
C'est le tien ?
Moi, je suis locataire. Okay. Enfin, assistant, mais ouais. Disons locataire.
D'accord. Et t'as beaucoup de plage horaire en kiné, tu bosses beaucoup, tu disais 11 heures par jour.
Ouais, je fais du 9h à 20h quoi.
Ok, combien de jours semaine?
5.
Ouais.
Ouais.
Le week-end fait du bien.
Le week-end est sympa.
Ok, top. T'as écrit un livre du coup qui s'appelle Tiens-toi droit.
Oui.
Si je ne me trompe pas.
Exact.
Qui va mettre en avant en quelque sorte les plus grandes croyances autour de la santé, autour... de la kiné qui ont été mis en place, un peu ces a priori que souvent les patients ont, auxquels on lutte un peu pour leur faire sortir de leur barrière limitante et des fois les améliorer dans le soin.
Bien sûr.
Si là, tu avais un top 3 à nous donner.
Un top 3 de ce que j'entends au cabinet?
Ouais. Et de ce sur quoi tu te combats un peu tous les jours. Enfin, combat, c'est un grand mot, mais ce sur quoi tu essayes de faire évoluer les gens,
sûr.
Du moins.
Est-ce qu'il faut se tenir droit?
Ouais. Classique.
La douleur, c'est dans ma tête. Un classique aussi. Et je le mets avec le deuxième, du coup, oui, ça peut être... ma douleur est psychologique. Et en troisième, qui serait dans le bouquin aussi.
Ou pas.
Ou pas.
Ouais.
Alors attends, qu'est-ce que j'ai si j'ai mal, il y a forcément quelque chose à l'imagerie. Si j'ai mal, il y a quelque chose à l'imagerie.
Ok. Et on fait une mini-synthèse de chaque. Moi je te donne mon avis synthétique pour voir si je suis à côté de la plaque ou pas. Évidemment, tiens-toi droit, non, il n'y a pas de mauvaise posture. On peut à la fois se tenir droit ou à la fois être complètement avachi. Il n'y a rien qui est vraiment néfaste pour le dos.
Ouais.
Le dos, il est solide. Par contre, ce qui va être néfaste, c'est de garder les mêmes positions pendant longtemps.
Même pas, enfin, il n'y a rien de néfaste. C'est si t'es pas confort, faut changer.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est même bien, pas néfaste en soi, tu vois.
Ouais, mais je pense à la personne, tu vois, qui est au bureau toute la journée. C'est vraiment, il reste dans la position, quelle qu'elle soit, toute la journée.
Alors, si c'est néfaste, ça veut dire que ça peut engendrer une blessure ou une lésion.
Alors, ouais, non, redéfinissons néfaste. Moi, je dirais plutôt ce qui va pouvoir entraîner une douleur.
C'est néfaste, forcément, entraîner une douleur ?
Non, non, carrément pas. Pas pour moi, en tout cas.
Alors, est-ce que c'est néfaste ?
Non. Je mettrais pas néfaste, du coup, mais pouvoir induire une douleur.
Moi, je dirais, parce que tu vois, par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir un peu d'inconfort, un peu de douleur au niveau du dos. Mmh. Alors, je pense que c'est déjà arrivé. Quelqu'un qui vient te voir parce qu'il a mal au genou, par exemple.
Ouais.
Et après, tu lui dis, enfin, je sais pas pourquoi, enfin, dans la discussion, ça arrive à un moment donné. Il te dit, oui, j'ai mal au dos depuis quelques années. Mais il a pas envie de se faire traiter pour ça, parce qu'il arrive à gérer. Mais pourquoi pas? Donc, si le mec, il est assis, qu'il a un peu mal au dos, mais qu'il s'en fout, bah, est-ce que c'est néfaste?
Non.
Donc, conseil bien sûr de professionnels de santé, éviter la sédentarité, machin, bouger. Bon, on fait comme on peut. Hein.
Ouais, puis on l'entend partout aussi en ce moment.
C'est
donc,
ça. Donc, je dirais, c'est pas néfaste, c'est juste si vous n'êtes pas confortable, changez de posture.
Ouais, écoutez-vous, quoi. J'aime bien ce principe.
Carrément. Voilà.
Écoute ton corps, écoute ce qu'il te dit, quoi. Si t'es dans une position que t'as mal au dos, essaie de changer, tu verras ce qui se passe.
Tout simplement. Ouais, c'est ça. Explorez par vous-même, vous verrez.
Ouais, carrément. Le côté j'ai une douleur, tout le monde me dit c'est dans ma tête. Si t'as une douleur, il se passe vraiment quelque chose dans ton corps, ou du moins dans le mécanisme de la douleur, donc c'est là. Et donc non, il y a pas de douleur dans la tête, ça n'existe pas.
Si tu ressens quelque chose de désagréable, c'est que tu le ressens. Voilà, donc on peut couper court. Hein.
Ouais, carrément.
Alors techniquement, oui, c'est dans la tête parce que c'est le cerveau qui produit la douleur.
Là-dessus, on est d'accord.
Mais voilà, si quelqu'un ressent une douleur, alors il ressent une douleur.
Ouais. Une métaphore que je trouve sympa sur la douleur, c'est de le voir comme vraiment un système d'alarme, quoi. C'est juste ton...
Oui.
Du coup, on va dire ton cerveau, parce que ça part du cerveau, mais qui t'indique qu'à un moment, ton corps, il a du mal à compenser et que du coup, ben, il va créer une inflammation à un endroit et il va te dire, ben, là, je galère, quoi.
On pourrait vulgariser comme ça, ouais, ouais. Ou se dire, OK, s'il y a une douleur, c'est tiens, il y a peut-être quelque chose à mettre en place.
Ouais.
Peut-être que c'est une façon de mon cerveau pour me dire, tiens, il y a peut-être... Peut-être que ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est peut-être pas optimal.
Ouais. Bon. Et c'est peut-être compliqué à gérer tout seul.
Après, c'est une vulgarisation un peu bâtarde, parce qu'il y a des pathologies où tu es plus ou moins condamné à souffrir. Et que l'alarme, elle est tout le temps activée, malheureusement.
Ouais, c'est l'alarme déréglée à ce moment-là.
C'est ça. Et là, pour prendre ta métaphore, que j'utilise et que j'aime bien aussi, ce serait de se dire, OK, il y a le bruit de l'alarme. Bon, comment on va faire pour... moins l'écouter et faire d'autres choses à côté. Bon, ça, c'est valable, bien sûr, pour des patients avec pathologie identifiée, etc.
Ouais,
etc.
Sur du chronique identifié.
Voilà, parce que
on va penser à toutes les maladies rhumatismales.
C'est quand même pas mal de faire gaffe aussi, quoi.
Ouais, carrément. Top. Le dernier, c'était quoi?
Si j'ai mal, il y a forcément quelque chose à l'imagerie.
Ah oui, ouais, évidemment. Et avec la fameuse hernie discale.
Tout à fait.
On m'a dit, j'ai mon hernie discale qui me fait mal.
Voilà. Donc ça peut être vrai, ça peut être faux, c'est difficile de savoir, c'est pas une fatalité en soi en tout cas. Parfois aussi l'imagerie, souvent ça va pas montrer ce qui est nerf ou artère. Donc attention à ça aussi quand même, de pas louper ça. Et parfois on a fait tous les examens du monde de la Terre, bon, il y a quand même pas de signe a priori structurel. Est-ce qu'il y a quand même pas un problème biologique quelque part? C'est très probable. Mais est-ce qu'il y a pas aussi des facteurs psycho, des facteurs sociaux? Voilà, la douleur est un tout, ma foi, bien complexe. Hein.
Carrément, et c'est là où vraiment on ouvre sur ce champ de complexité de la douleur. Et ça, je trouve ça passionnant. Et c'est là où je trouve qu'il faut amener pas mal d'humilité en tant que thérapeute.
C'est sûr.
voilà, quelqu'un, un thérapeute qui va dire, moi je sais, c'est ça ta douleur. Oula,
il est fort.
Accroche-toi un petit peu.
Il est fort.
Ok, top. Dans ton expérience en tant que kiné, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais... dans des situations où le BP et tout ce qui est prouvé à travers les études scientifiques, la littérature scientifique, fournissent pas forcément de réponse claire aux résultats que tu aimerais avoir, comment tu gères ça avec ton patient?
Déjà, je pense qu'il faut redéfinir un peu qu'est-ce que le BP, l'evidence-based practice.
À fond.
Et où, il y a, comment dire, une simplification qui dit EBP égale étude. Voilà. EBP, déjà, c'est pas ça. Bien sûr, c'est un triptyque entre tout ce qui est expérience du praticien, ce que dit la recherche, et puis les attentes du patient. Redéfinissons rapidement ce que c'est. L'attente du patient, c'est pas « je veux des massages ». Ce n'est pas une attente. C'est un peu bâtard en français. L'attente d'un patient, ce serait « je veux retrouver telle fonction, tel niveau de douleur, tel confort de vie ». Voilà, ça, c'est une attente. Bon. Les données de la littérature, bon, c'est les études. Ok. Et la fameuse expérience du praticien. Alors, je recommande à tous le papier Princeps de Sackett, années 90.
Ok.
Qui est, en gros, peut-être le premier gars à avoir un peu défini ce que c'était le BP. Depuis, il y a eu des évolutions. Enfin, bref, voilà. Ça a été un modèle en triangle. Il y en a qui ont proposé un modèle en pyramide, d'autres un modèle en colonne. Enfin, bref, il y a plein de modèles possibles, donc c'est complexe. L'expérience des praticiens, c'est pas j'ai fait telle manip et ça améliore tel patient. C'est pas que ça, en tout cas. C'est aussi, pour tel patient, de reconnaître le profilage du patient. Et donc, les données de la science me disent, par rapport à ce profil de patient, qu'est-ce que je peux appliquer. Les études ne vont pas non plus te dire comment communiquer par rapport à ce patient, comment rebondir, quel type forcément d'exercice appliquer, etc.
C'est passionnant. Comme,
en gros, je dirais que l'expertise du praticien, c'est comment j'adapte les données de la recherche à ce patient. Voilà. Mais les données de la recherche restent importantes. Pourquoi? C'est extrêmement simple à comprendre. La recherche te dit ce qui est a priori, et le a priori est extrêmement important, ce qui est a priori le plus efficace pour une population donnée, statistiquement parlant. Ok. Pourquoi on ne mettrait pas du coup en place ce traitement qui est a priori le plus efficace pour ce type de patient en première intention? Voilà. Moi, je raisonne comme ça, c'est lombalgie... pas de signe de neuropathie, lombalgie simple, entre guillemets, mécanique. Bon, exercice thérapeutique, résistance, cardio, a priori un mix des deux. Ok, je vais essayer ça en premier lieu. Bon, ça marche pas, autre type d'exercice. Ça marche pas, bon, ça fait combien de séances? Ok, est-ce qu'on va pas explorer autre chose? Périnée, pourquoi pas digestif, psycho, voilà. Mais en première intention, avec le bilan que j'ai, est-ce que c'est pas ça le plus probant?
Et est-ce qu'il y a parfois dans ton expérience justement, des situations où à travers justement ton bilan, tu vas avoir envie de t'orienter plus rapidement sur justement la deuxième ou la troisième étape?
Ouais, bien sûr. Alors, un exemple tout bête, tu vois, je pense à une patiente qui vient me voir pour des lombalgies persistantes depuis 5 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc à l'interrogatoire, je lui pose des questions sur la sphère urologique, etc. Et il s'avère qu'il y a des petits pépins. Donc là, je lui dis, on peut faire éventuellement 2-3 séances sur un mois. Si ça n'améliore pas du tout, moi, je vous redirige vers gynéco, sage-femme, rééducation périnéale. Parce que je pense que, voilà. Comme ça, on a mixé tout de suite, on prend un peu d'avance, bref. Ouais. Après, comme ça fait 5 ans, elle me dit, oui, enfin voilà, je ne suis plus vraiment pressé. C'est pour ça, 2-3 séances.
Ouais, carrément.
Mais oui, oui, et ça, si tu veux, en effet, c'est bien le raisonnement clinique qui permet d'arriver à ça. Et mon expertise va me dire, alors attends, les données de la science, elles me disent quoi? Ouais, un trouble au niveau uro, oui, ça peut engendrer des lombalgies. Ah, intéressant. Mais c'est peut-être juste une lombalgie, entre guillemets, simple. Bon, mon expertise me dit quoi? Bon, écoute, essaye quelques séances. A priori, sur un mois, d'après la recherche, je devrais avoir tant de résultats. Si jamais ça marche pas, deuxième plan, rééducation périnéale.
Ouais, carrément.
Voilà.
Ça donne vraiment des grandes lignes à appliquer.
Ouais, c'est ça.
Et après, évidemment qu'on ne peut pas que se tenir à ça parce que ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais est-ce que tu as très bien défini, à travers la littérature scientifique, on va avancer dans des compréhensions.
Bien sûr.
Face à la complexité du vivant, on parlait de la complexité de la douleur, on peut parler aussi de la complexité ben, de l'humain. Quoi. C'est, on arrive toujours avec des cas qu'on ne va pas comprendre, des erreurs thérapeutiques, des trucs où on bute. Et donc, évidemment que et ces limites-là sont repoussées, je pense, au fur et à mesure. Et la science est là pour se contredire et pour apprendre.
Bien sûr.
Mais moi, tu vois, quand je me dis qu'on veut essayer parfois de prouver un truc hyper spécifique, parce qu'au final, dans la science et dans le BP, enfin, dans la littérature scientifique, on va essayer de prouver du spécifique.
Bien sûr.
Et quand on se rend compte à quel point c'est plus global, c'est difficile de se dire « Ah ben, avec la littérature scientifique, c'est ça qu'il faut faire. » Alors que là, ben, tu te retrouves face à un humain, tu vois, comme on disait.
C'est là où ton expertise est intéressante, c'est comment tu vas mixer tous ces éléments entre eux. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est top.
Donc, si tu veux, on a des bases qui sont l'anatomie, la physiologie, etc. La littérature s'inscrit un peu au même rang que ça. Ça reste une base et ça reste un système probabiliste. C'est-à-dire que tu as statistiquement le plus de chances de réussite avec tel traitement.
Ouais.
Bon. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, donc c'est hyper important. Maintenant, je sais qu'il y a des débats qui disent « oui, mais c'est pas prouvé, mais pourtant, j'ai du résultat, etc. » Oui, mais allons un peu plus loin dans le raisonnement. Est-ce qu'il n'y a pas des parts d'effet placebo? C'est très bien l'effet placebo. Hein. Voilà, dès qu'on dit placebo, tout le monde s'excite. Hein, tu dis que je suis placebo, que je ne sers à rien. Ou pas du tout. Hein.
Pour moi, c'est l'effet le plus important dans un soin. Hein.
Pour une petite histoire, c'était c'était une étude, hein, un cas clinique référencé, un mec... Pas de bol, ça mène à le kit, etc. Tout va mal. Bref, il veut se foutre en l'air. Il prend sa boîte d'antidépresseur, il gobe tout. Bon, le mec, il est pas bien du tout. Tension basse, cardio bas, blanc, sueur. Enfin bref, voilà, il va faire un arrêt, quoi. Il se pointe aux urgences. En effet, les constantes sont pas bonnes. Ok. Il le perfuse, machin, mais il n'y a rien à faire. Il remonte pas. Il avait intelligemment ramener la boîte des antidépresseurs et un médecin qui l'a observé et qui s'est rendu compte que « Ah, vous faites partie d'un essai clinique, non ?»« Oui. Attendez, je regarde. Bon, vous faites partie du groupe placebo. » Et le mec, en 5 minutes, toutes ses constantes sont revenues à la normale. Donc, sous-estimer ça, c'est déjà avoir un ego trop important. Voilà. Il faut accepter qu'il y a une grande part de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est cool, c'est très bien. Enfin, de toute façon, c'est comme ça. Et c'est pas un problème de se dire que bah, peut-être ce que j'ai fait, c'est entre guillemets placebo, c'est-à-dire que ça agit par d'autres effets que par un effet biologique pur.
Carrément.
Et c'est très bien. Et pourquoi pas?
Et moi, en ostéopathie, clairement, je suis convaincu qu'on utilise énormément cet effet placebo.
Bien sûr.
Et moi, il me passionne, en fait.
C'est génial, l'effet placebo.
Parce que quand on réfléchit, il se passe quelque chose, tu vois, dans l'effet placebo.
Souvent, la façon de communiquer, la façon de se tenir, machin, blablabla. Déjà, ça joue.
Souvent, on l'a associé à c'est l'effet placebo, donc c'est rien, parce qu'à la base, quand on parle de médicament placebo, en effet, il y a un médicament qui est enlevé de ses fonctions. Mais moi, je pense que quand on parle d'effet placebo à travers un soin, donc à travers des résultats de soins, là, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, vu que, comme tu l'as dit, tu vois, c'est constant, à ce gars, elles sont descendues, elles sont restées basses.
Ah, mais il y a donc, tellement d'exemples comme ça. Enfin,
et c'est là où il faut, je pense, rappeler l'humilité face à ce qu'on ne comprend pas.
Bien sûr.
Tu vois.
Et ce n'est pas grave. Donc, voilà, tu as cette part placebo, c'est comme ça. Ouais. C'est inhérent aux soins, c'est obligatoire. Donc, ok.
À fond. Un deuxième mini-jeu pour...
un petit jeu.
Ouais, pour couper un peu. Dans le même principe, je te propose deux choix. Mm-hmm. Tu me donnes celui que tu veux. Évidemment, il peut y avoir de la nuance. Le but, c'est de pouvoir, pouvoir élever un peu le débat autour de ça. Si je te dis prévention ou rééducation?
Je te dis question compliquée.
Ouais.
Les deux.
Ouais.
Compliqué. Prévention, on aimerait tous faire un maximum de prévention. Qu'est-ce qu'on peut bien prévenir? Activité physique, sommeil, nutrition, pas de tabac, moins d'alcool, voilà.
Travailler le terrain, quoi.
Parfois, il n'y a pas le choix. Hein. Ouais. Donc, les deux.
Ok, trop bien. Pratique sportive ou relaxation?
Allez, pratique sportive.
Ouais.
Parce que ça induit de la relaxation aussi.
C'est vrai. Est-ce que tu es sensibilisé à tout ce côté... méditation, sophro, respiration?
Alors, sensibilisé, oui. Ouais. Est-ce que je connais beaucoup? Franchement, non. J'ai des connaissances ridicules. Hein, ouais. Mais sensibilisé un petit peu.
Ok. Parfois, tu le conseilles? Parfois,
Oui, ça peut arriver. Top. Après, avec des praticiens de confiance.
Ouais.
Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de dérives dans ces milieux-là.
Ouais, on va en parler tout à l'heure. Ouais, mais...
Donc, avec praticiens de confiance.
Carrément. traitement manuel ou exercice thérapeutique?
Les deux. Ni l'un ni l'autre.
Carrément.
C'est plutôt à quel moment et pourquoi?
À fond. Adaptation ou spécialisation?
Adaptation.
Ouais, top. Et santé physique ou santé mentale?
Santé.
Top. Pour revenir justement à ce que tu étais en train de dire juste avant sur les dérives, c'est des choses qui font pas mal parler en ce moment.
Oui.
Évidemment. En parlant de BP, voilà, il y a à la fois... des extrêmes dans les deux cas, des extrêmes dans science, des extrêmes dans les dérives, malheureusement.
Bien sûr.
Il y a je pense qu'il y a une grosse vague un peu New Age avec cette émergence de tous les coachs mentaux, les coachs santé, de tous les thérapeutes qui vont être hypnose, qui vont être tout en fait et n'importe quoi aujourd'hui, naturopathe. Et en fait, moi, j'en côtoie beaucoup, je discute avec plein, il y en a qui sont vraiment des experts à travers ce qu'ils font et qui ont des résultats incroyables que j'ai côtoyé. Et là, je trouve ça chouette. À l'inverse, là où je pense qu'il faut se méfier et il faut vraiment en parler, c'est qu'aujourd'hui, on a des formations qui vont nous donner des titres qui n'ont plus rien de sensé, en fait. On peut faire une formation en hypnose en 4 jours.
Bien sûr.
On peut faire une formation en nutrition en 2 jours. Et encore une fois, peut-être un mauvais côté des réseaux. On peut avoir beaucoup de gens qui nous suivent parce qu'on a une bonne chat, parce qu'on sait gérer les réseaux, on sait prendre de l'attention aux gens et du coup, on va pouvoir avoir plein de patients qui vont venir à nous. Et pour moi, c'est comme ça que je visualisais un petit peu le charlatanisme parce que ces gens qui ont peu d'expérience et qui vont parfois prendre en charge des choses très importantes chez un patient, pour moi, c'est là où il y a de la dangerosité.
Pour moi, il y a deux dangers. Il y a la perte de chance et la dérive sectaire.
Ouais.
Enfin, ou même dérive thérapeutique.
Ouais.
Bon, la perte de chance, c'est faire des traitements qui, a priori, d'une façon probabiliste, ne sont pas prouvés ou n'ont pas forcément de très très bons résultats.
Ouais.
Ça peut être une perte de chance parce que on perd du temps. Et l'autre, c'est la dérive où le thérapeute, en l'occurrence, va avoir une emprise sur le patient. Donc, va l'éloigner quand même des traitements qui sont reconnus importants et efficaces, qui va l'éloigner de la médecine occidentale avec ses défauts, bien sûr. Mais bon, on a quand même des traitements intéressants pour des pathologies parfois très graves. Et donc, d'éloigner les gens de ça, c'est un risque important. Et la perte de chance. Pour moi, c'est les deux choses vraiment... problématique et qu'il faut identifier. C'est pour ça que je te parle de praticien de confiance, parce que j'ai des collègues qui font parfois des techniques où pour moi, tu vois, mais je sais qu'ils vont pas être dans la dérive et qu'ils vont pas être dans la perte de chance. Donc je me dis, pourquoi pas, allez, pourquoi pas, soyons fous. Puis parfois, ça marche super bien. Parfois, ça donne que dalle. Mais c'est safe pour le patient. Et si c'est safe pour le patient, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Voilà. À partir de là, bon, bah, qui détient la vérité sur la douleur, je ne sais pas. Mais s'il y a un kiné qui s'acharne à faire des techniques, je ne sais pas moi, de kinésiologie, alors qu'il n'a pas, pris attention à son patient, alors qu'il y a de l'hypertension, machin, blabla, ben là, il y a non seulement il y a de la grosse perte de chance, et du coup, ça pose un vrai problème, tu vois. Que si le kiné, bon, il a tout pris, qu'il a tout éliminé, il n'y a rien de grave, vraiment tout est nickel et qu'il fait de la kinésiologie, par exemple, pourquoi pas.
Ouais, et encore que là, du coup, ce kiné est quand même kiné déjà, tu vois.
Bien sûr.
Moi, là où parce que j'en parlais il y a pas longtemps avec un autre invité, mais là où vraiment je tiens à appuyer mes mots, c'est peut-être en tant que patient, vraiment prendre le temps de se renseigner sur ce qu'ont fait vos thérapeutes, quoi, avant de prendre des rendez-vous.
Bien sûr.
De voir s'il a fait deux fois quatre jours de formation, vous avez le droit de leur demander, ils ont le droit de vous répondre, et après, libre à vous.
Ou demander, tiens, vous avez fait telle formation, ah ouais, c'était en combien de temps, machin, enfin voilà.
Et tu parles de kiné, mais en ostéo, c'est très prouvé, enfin, moi je pense que c'est très présent aussi.
Ouais, j'ai l'impression, malheureusement.
Ce qu'il faut vraiment appuyer, et ce que tu dis très justement, c'est que l'ostéopathie, avant tout, il y a une base médicale, parce qu'on est de première impression, et c'est là où c'est hyper important, et on ne doit pas passer à côté de choses.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'on doit avant tout être formé, et les écoles forment de mieux en mieux sur ce côté-là, donc ça, c'est d'accord, vraiment chouette. Mais évidemment, le patient qui vient nous voir, eh ben, il ne faut pas passer à côté de drapeaux rouges, il faut réorienter quand c'est nécessaire, et il ne faut surtout pas perdre de temps.
Il faut bien les évaluer, les drapeaux rouges, et ça, ce n'est pas forcément au point pour que ce soit kiné ou ostéo, d'ailleurs.
Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et c'est bien, du coup, de se former derrière, c'est bien...
C'est nécessaire,
ouais,
pour le patient.
Ouais.
Ouais.
Et une fois qu'on a établi ça, pour ne pas perdre de temps, pourquoi pas après, voilà, comme tu dis, travailler en coopération, en fait. Parce que là où parfois, si aujourd'hui l'ostéopathe est si convoité quand même par beaucoup de gens, c'est que... Et je pense qu'on est aussi un peu baisé dans tout ça, parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont en errance thérapeutique, parce qu'on leur propose des solutions qui leur vont bien et qui souvent les aident.
Comme vous avez un peu de temps en consultation, souvent vous prenez plus le temps de les écouter,
évidemment,
aussi.
Évidemment,
Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des traitements, entre guillemets, un peu... Enfin, alors pardon pour le mot que je vais employer, un peu magique. Mais en fait, c'est grâce à l'écoute accordée à une patiente, à un patient qui était en galère, quoi.
Ouais.
Rien que ça, c'est énorme, en fait.
Ouais. Moi, tu vois, pour même exercer à travers des formations comme l'ostéopathie biodynamique, des choses qui, quand tu connais pas, parfois paraissent justement un peu magiques, sont très controversées, parce que évidemment rien n'est prouvé à travers ça, et parce que ça se base sur des fondements, à travers pour transmettre, en fait, des savoirs, il faut parfois mettre des mots dessus. Et quand il n'y a pas de science à travers ça, c'est compliqué. Donc, évidemment, c'est extrêmement controversé. Par contre, aujourd'hui, avec un peu de recul, comme tu dis, il y a le temps. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup, aujourd'hui, rien de prouvé, hein, c'est que mon expérience, le système nerveux qui joue dans ces traitements-là. Parce que quand tu te poses à la tête du patient pendant presque 15, 20 minutes, parfois plus, que toi, tu es avec, encore une fois... Ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu accueilles le patient d'une façon différente, quand toi, tu es dans un état où tu es complètement détendu, relâché, le patient, il se sent bien aussi. Et je pense qu'il pourrait, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, je ne pense pas, mais on parle souvent du système nerveux autonome, du système nerveux orthosympathique, parasympathique. Quand le patient, tu sens qu'il est complètement relâché, il s'est un peu abandonné, il est limite entre le sommeil et l'éveil. Et pour le coup, moi qui me suis un peu renseigné, il y a quand même des études qui montrent aujourd'hui qu'il y a... On émet différentes ondes, tu vois, je sais pas si tu connais les ondes,
les ondes cérébrales, tout à fait.
Et quand on est dans un état où on est en fait entre le sommeil et l'éveil, et qu'on prend conscience en fait de nos perceptions et nos sensations dans le corps, et ben il y a pas mal de mécanismes régulateurs physiologiques qui se mettent en place.
C'est aussi un petit travail psychologique, du coup.
À fond. Et je pense que tout ça est un mash-up dans la séance d'ostéopathie qui fait un bon cocktail. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai des résultats très chouettes.
La perception corporelle, on a des données dessus. Donc je pense quand même qu'on peut expliquer pas mal de choses.
Ouais, et c'est top.
Ouais, carrément.
Ok. Donc, si tu dois nous donner, en quelques lignes, une mini-définition du charlatan pour toi aujourd'hui.
Le charlatan, c'est celui qui assure une perte de chance. Et le charlatan dangereux, c'est celui qui est dans la dérive et qui a une emprise vraiment toxique sur le patient.
Ouais.
Sciemment ou pas.
Carrément.
Et le pire, c'est le ou pas, je pense.
Ouais. Quand il est inconscient qu'il le fait.
Ouais.
Complètement.
Parce que ça veut dire qu'il va, enfin, c'est un danger, mais il le sait pas. Alors que les dangers qui se sachent, alors après, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont conscients qui vont faire du mal aux autres? Je sais pas. Mais bon.
Après, il y a l'ego qui rentre en jeu, il y a le pouvoir qui rentre en jeu.
Bien sûr.
C'est compliqué. Ok. Moi, je pense en tout cas que faut pas hésiter à se remettre en question et à revoir un peu ses casseroles des fois. Tu vois, moi pour.
Faut rester humble.
Ouais.
Faut rester vraiment humble par rapport à la complexité de l'humain. Quoi.
Ça à fond. Voilà. Je suis hyper d'accord.
Ouais. Ok. Faut pas avoir peur de dire je sais pas.
Ouais, carrément. Pour te suivre depuis un petit moment, et c'est quelque chose que j'ai bien apprécié chez
Merci.
Toi.
Merci.
au fur et à mesure de tes posts, ce que j'aime bien, justement, tu parles d'humilité, il y a toujours cette fenêtre de l'incompréhension et cette fenêtre du « ok, ça, c'est ce qui est prouvé, mais après, évidemment, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. » Et on voit aussi de plus en plus récemment sortir justement ce contexte émotionnel que je trouve, moi, hyper important.
Bien sûr.
Je vois beaucoup de patients pour ça et j'ai été sensibilisé à ça, donc je trouve ça hyper intéressant. Comment toi, aujourd'hui, quels sont tes outils, en tout cas en tant que kiné, pour aborder l'émotionnel avec le patient?
C'est compliqué ce que tu me poses parce que j'ai pas fait d'analyse critique de ma propre pratique.
Ouais, mais
je vais essayer de te répondre quand même.
J'interview aujourd'hui Antoine Colli et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir son expérience.
J'ai des questions clés que je peux poser aux patients. Alors ça, c'est un truc que j'aurais du mal à expliquer, mais je pense qu'on le ressent tous. Tu sais, quand t'es thérapeute, tu sens qu'il y a un truc qui va pas chez le patient, tu vois. Que sa façon de parler, sa façon de se tenir, sa façon de te regarder ou de pas te regarder, le ton de sa voix, enfin voilà, il y a des petites astuces qui font dire que quelque chose qui va pas trop. Ok. Et il faut faire attention parce que comme on sait pas qui on a en face de nous, des questions trop directes sur de la psychologie peuvent être extrêmement brutales pour un patient. Ah, vous me parlez vachement de douleur de dos, machin. Par exemple, pour une patiente, mais vous avez déjà eu des attouchements, des choses comme ça? Violence.
Là, on est sur un lien un peu trop direct.
On est sur du très violent.
Ouais. Je peux pas te permettre de demander ça comme ça, de toute façon, selon moi, en tout cas.
Pas en première séance.
Pas en première séance, ni en première intention, quoi.
Ouais. Ou alors faut... Enfin bref, mais ça me paraît compliqué. Je pense que le travail, enfin pour bien connaître quelqu'un, ça demande du temps. Je pense que c'est là aussi en ostéopathie, vous êtes désavantagé, clairement, parce que il y a pas même suivi qu'en kiné, etc. Et ça prend du temps parfois d'avoir des éléments psycho avec un patient. Et c'est pour ça que tu sais, tout à l'heure tu me disais thérapie manuelle ou exercice. Moi, j'aime beaucoup la thérapie manuelle parce que ça me permet justement de pouvoir échanger facilement avec un patient et parfois dans des conditions de relaxation. Rien de tel qu'un bon massage pour être détendu. Enfin, selon patient, il y en a qui n'aiment pas du tout être touchés. En général, ça cache quelque chose, ça.
Oui, évidemment.
Mais sinon, si les patients aiment bien ça, vous faites quoi comme boulot? Ok, ouais, ça vous intéresse, machin. Alors, tu as le patient qui peut te dire, oui, mon boulot, oui, ça m'intéresse, oui, ouais. Bref, ça m'intéresse. Ah, oh, j'adore ce que je fais. Et selon sa réponse, ah tiens, ok. Ah mais vous me répondez d'une façon, ça n'a pas l'air si intéressant. Ouais, non, vous savez, le stress, machin. Ah, le stress, ouais, c'est quand vous avez des responsabilités. Non, mais c'est voilà, avec le patron. Ah, petit à petit, t'en connais de plus en plus. Et après, comme ça, c'est comme un peu des Lego. Tu retrouves tes petites pièces qui vont ensemble, et puis ça s'imbrique. Et ah tiens, en fait, y a une dépression, il y a un départ de burn-out... il y a de l'anxiété sociale, enfin bref, voilà. Donc je dirais que c'est un peu comme ça que je construis, c'est avec des petites questions innocentes qui ne le sont jamais, et qu'en fait le patient, sur sa façon de répondre, va me dire s'il y a un problème ou pas. Bon, et une fois ça posé, est-ce que ça rentre dans mon champ de compétences? Oui, non. Est-ce que je propose au patient d'aller peut-être consulter quelqu'un? Oui, non. Pareil, il faut avoir la manière de le faire, hein. Parce que y a encore, c'est mieux, mais c'est encore un peu mal vu d'aller chez le psy. Mais c'est en train de changer.
Non, je lutte fort contre ce tabou aussi, parce que en fait, ça devrait être aussi naturel que d'aller faire une séance de sport pour moi.
C'est pas un problème.
On prend soin de notre santé physique, il faut aussi prendre soin de sa santé mentale. Il y a aucun problème, en fait.
Tu sais bien de parler à quelqu'un qui est pas proche de nous, qui a pas nous juger. On balance facile avec des gens qui sont neutres. On balance beaucoup plus facilement qu'avec des amis parce que on veut pas les embêter. On peut avoir peur du jugement. Enfin voilà quoi.
Et ça fait du bien.
Et ça fait beaucoup de bien parfois. Parfois ça fait beaucoup de bien. Donc souvent les patients qui me disent et qui arrivent avec un gros sourire, ça va, et qui après 10 minutes parce que quelques questions et qui font dans l'arme, bon. C'est pas quotidien mais hebdomadaire. Voilà.
Ouais, carrément.
Donc voilà, des petites questions comme ça anodines, mais à force de tricoter, tu chopes les infos.
Tu t'envoies un petit hameçon comme ça, doucement, avec justesse, et tu tires le fil tout doucement.
Gentiment.
Une petite pêche à la ligne.
Parfois, tu tires un peu. Ah non, c'est pas bien ferré, bah c'est bon, on continue, okay, tranquille. Il y a le temps.
Je suppose que en ayant toute cette conscience-là et en prenant le temps de faire ça avec tes patients, parfois, tu as des libérations émotionnelles qui peuvent se passer en soins.
Oui, bien sûr.
Comment tu gères ça en tant que kiné? Parce que je pense que c'est intéressant.
Si le patient pleure, je demande s'il veut un mouchoir, s'il veut un verre d'eau. Je lui dis, écoutez, voilà, allez-y, lâchez tout. On est entre nous. Voilà. Vous êtes au bon endroit pour le faire.
C'est top.
N'hésitez pas. Voilà, allez-y. Ça prend le temps qu'il faut. Si vous avez besoin, je suis là. Je vous laisse un peu tranquille. Donc je me mets un petit peu en retrait. Je vais parler sur mon téléphone ou regarder à droite à gauche.
Tu restes présent.
Oui, j'attends juste, voilà. Je demande comment ça va, ça passe, voilà. Ou ça passe pas. Voilà. Vous voulez encore un mouchoir
C'est gratuit.
C'est gratuit, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose forcément à dire. Et il ne faut pas essayer de rassurer, ça ne sert à rien. C'est juste que cette personne a besoin d'évacuer, il y a une souffrance, il faut qu'elle évacue. Et je pense qu'elle est contente de pouvoir le faire dans un cadre où bah, c'est sécure pour elle, où c'est confortable, etc.
Ouais.
Déjà, rien que ça, bah, c'est cool. Au début, je n'étais pas à l'aise. Vous êtes sûr que ça va? Vous voulez me dire ce qui se passe? Plus trop aujourd'hui. Voilà, c'est allez-y, pleurez. Pas de problème. Allez-y.
Ouais, dans un non-jugement complet, et juste être là et laisser la personne être au moment où
voilà, et puis de dire à la fin, tu vas te dire, j'entends et je vois que vous souffrez vraiment de la situation. Écoutez, on va voir ce qu'on peut mettre en place, quoi.
Carrément.
Voilà, c'est tout.
Ouais, t'as une vraie présence à ce moment-là et c'est hyper important.
Et d'être une oreille. Ouais. Pas être un sauveur, être une oreille.
Complètement.
Ça suffit. Au contraire, même, c'est moins toxique que d'être un sauveur.
Ça pourra peut-être aider certains kinés, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand ça arrive. Et ça
on
arrive.
A envie d'aider les gens, et c'est beau, et c'est humain, et c'est cool. Mais attention, voilà, parce que quand on veut en faire trop, parfois trop en faire, c'est foirer le truc.
Ouais, ne pas trop en faire, mais juste être là déjà.
Bien
être
sûr, là c'est déjà bien.
Et quand une personne déjà se sent écoutée et qui sort une émotion,
si la personne se lâche, c'est déjà qu'elle se sent à l'aise.
Ouais. Pour revenir, je ne veux pas spoiler ta formation, mais ça m'intéresse.
Bien sûr.
Pour revenir à ce moment-là, quand tu réorientes psychologue, psychiatre, psychothérapie, t'orientes vers quoi, comment?
Alors, ça va dépendre. Je connais quand même quelques thérapies.
Alternatives aussi, parce qu'il y en a, si tu as des connaissances.
Ouais, mais alors plutôt thérapie psychologique, genre est-ce qu'il vaut mieux une TCC, un EMDR, des choses comme ça.
Ouais, complètement.
Et je connais des praticiens qui font ça. Donc je vais orienter vers quand j'ai une idée un petit peu de quel type de trauma psy il y a, je vais dire ok, peut-être que cette thérapeute là avec ces techniques c'est peut-être plus approprié pour vous. Voilà, simplement
top.
Ouais, okay. Donc avec un bon triage.
Ouais. Et est-ce qu'il y a quand même des drapeaux rouges qui te font orienter vers un psychiatre, ou là c'est un peu plus moi du moins j'ai cette vision là où le psychiatre ça va peut-être être sur des problèmes un peu plus lourds.
Ça c'est compliqué, ça c'est compliqué, compliqué, c'est très compliqué, parce que si en effet il y a une patho lourde psychiatrique qui n'a pas été détectée, là tu peux pas dire au patient il faut aller voir un psychiatre.
Ouais, donc plutôt psychologue après le psychologue.
Non, là plutôt les proches, voir médecin traitant, d'échanger.
Ok.
Ensuite avoir un temps d'échange avec le patient, mais attention, on n'est pas médecin, donc on n'est pas annonciateur de diagnostic.
Complètement.
Et ça peut être très 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 violent. Il peut y avoir parfois des réactions très violentes des patients, que ce soit émotionnel ou physique.
Ouais.
Donc là-dessus, il faut
prendre des grosses pincettes.
Grosses pincettes, et plutôt de dire au patient, là, je pense qu'il faut revoir le généraliste. Je pense qu'il nous manque des éléments.
Ouais.
Et appeler le généraliste et lui dire, écoutez, niveau psychiatrique, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Après, il faut être à l'aise avec ça, il faut connaître un petit peu.
Complètement.
Parce qu'on a vite fait sinon de dire tout le monde, il est psy.
Ah oui, c'est sûr. Non, il faut rester humble, comme on disait tout à l'heure.
Bien sûr. Mais oui, ça peut être important, et notamment, je pense au risque suicidaire.
Ouais. C'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est hyper répandu.
Tout à fait. Si jamais il y a quelqu'un qui vous partage des idées noires, le premier réflexe, ça va pas être de dire « Non, mais faut pas faire ça. » Non, ça va être de dire « D'accord, et vous avez pensé à comment vous allez vous y prendre, etc. » Et s'il y a des réponses claires à ces choses-là, oui, il faut alerter les proches.
Ouais.
Voilà.
C'est un très bon conseil, ça, je pense.
C'est parce que d'avoir des idées noires, c'est humain et ça arrive.
Il y a des études qui avaient été faites, et en fait, je crois que presque... Je vais pas dire de conneries, mais c'était des gros chiffres, genre presque... allez, 50% de la population a déjà eu des idées noires, en fait. Et
ça
les
ça
idées
ont
tendance
hein.
à un peu se dire, ouais, même beaucoup plus, peut-être.
Et ça peut arriver un jour, tu te dis, ouais, je me foutre en l'air, ça me saoule, là, tout ça. Puis en fait, ça passe. Mm. Par contre, la personne qui te dit, ouais, je me foutre en l'air, la pendaison, c'est, ça, voilà, c'est pas mal pour ça, mais peut-être les médicaments, mais ça me fait un peu peur les médicaments. Ok, là, il y a de la réflexion. Ouais. Non, là, c'est chaud.
Elle a conscientisé le truc déjà, quoi.
Là, c'est chaud. Et là, il faut dire, ok, attendez. Ok, vous me parlez de ça. Je pense que c'est en effet c'est assez grave. Est-ce que vous êtes suivi, machin, blabla. Ouais, ouais. Là, faut, là, c'est un ultra rouge flag là.
Carrément. Ouais. Aujourd'hui, à travers ton expérience, si tu dois me donner les qualités nécessaires à être un bon thérapeute, à prendre en charge un patient, un humain.
Être à l'aise avec la douleur des gens.
Ouais.
Être humain. Être à l'écoute. Être à l'écoute, ça veut pas dire j'écoute et j'attends mon tour pour parler. Ça veut dire avoir un travail actif sur son oreille, sur son écoute. Ouais. Voilà, il me donne des informations, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je perçois, etc. C'est très fatigant. Mmh. Être humain, être à l'écoute, être empathique, bien sûr. Hein, ça, c'est les trucs de base.
C'est des trucs de base,
mais c'est déjà bien, en fait.
Entre la théorie et la pratique, on a encore des fossés parce que être empathique, on peut pas dire d'un coup comme ça, je deviens empathique. Mmh. Enfin, en tout cas, moi, dans mon parcours personnel, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais pas du tout empathique sur le début de mes pratiques, même en tant que début ostéo. Et c'est uniquement mon parcours à moi et c'est moi comment j'ai vécu, mais d'avoir travaillé sur moi par de l'émotionnel, de mettre. Et on dit, tu vois, voir un psy, c'est pas tabou, mais du coup, à travers ces soins que j'ai fait là, ben, je suis allé voir des psys, j'ai été pris en charge de façon émotionnelle sur ma vie, mes pépins. Et en fait, ben, ça a tout changé sur mon accueil des patients.
Bien sûr.
Et je pense que. On dit souvent, tu vois, prendre soin de soi avant de prendre soin des autres.
Bien sûr.
Je pense que c'est important.
Ah, ça peut être très important.
Carrément.
Mais être empathique, voilà, ne veut pas dire être triste pour le patient, mais d'entendre la souffrance.
Ouais.
Un petit fun fact. Tu sais d'où vient le mot patient?
Non.
Ça vient du latin patio, qui veut dire souffrir. Donc le patient, celui qui souffre.
Ouais.
Et au final, c'est entendre celui qui souffre. Mmh. C'est ça notre métier.
Ouais.
Beaucoup. Après, proposer des solutions, bien sûr, mais de juste dire, ok, j'entends. J'entends votre souffrance et j'entends que c'est vraiment pénible pour vous. Et voilà, voilà ce qu'on peut mettre en place pour espérer, en tout cas, améliorer la situation. Et déjà, pour les gens, c'est énorme, quoi.
Ouais, complètement.
Voilà.
Top. Ok, bah écoute, ça fait déjà une petite heure qu'on discute.
Eh non, de Dieu.
Il faut quand même préciser que actuellement il est 22h.
Puis il faut que j'aille jouer à Cyberpunk quand même.
Moi aussi j'aime bien les jeux vidéo, c'est pas mal. Ça permet pas mal de poser le cortex
préfrontal. Ça déconnecte bien.
À fond. Je te remercie, Antoine.
Merci à toi, Baptiste.
De m'avoir accueilli chez toi. La discussion qu'on a eue, je pense, est passionnante. Et elle fera beaucoup de bien à pas mal de monde.
Bah, c'est chouette.
C'est chouette d'avoir pu aborder tous ces sujets. C'est chouette aussi de voir ton ouverture d'esprit autour de tout ça.
Pas de soucis.
Ouais. Je te souhaite une très bonne soirée. Et à bientôt.
À bientôt, Baptiste.
Salut.
C'est tout pour aujourd'hui dans Soignant Soigné. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette conversation t'a apporté autant qu'à moi. Si tu as apprécié notre exploration, je t'invite chaleureusement à me soutenir en laissant une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, accompagnée d'un commentaire si tu le souhaites. Ton soutien m'aide énormément pour faire connaître davantage ces discussions enrichissantes et convier des invités toujours aussi passionnants. Je tiens également à remercier Arnaud, qui s'occupe maintenant du montage son du podcast, cela me fait gagner beaucoup de temps. N'hésite pas à partager ce podcast avec tes proches et sur les réseaux sociaux. Ton engagement contribue à faire grandir cette communauté passionnée autour de la santé et du bien-être. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles découvertes inspirantes.